se trouve dans le deuxième chapitre que nous venons de lire au verset 3. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Et en particulier, le deuxième partie de ce verset, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc nous regarderons ce verset plus particulièrement, mais dans l'ensemble du passage que nous avons lu ce matin, nous voyons trois choses qui constitueront donc le plan de ce message. D'abord, nous voyons d'abord la clarté de la révélation de Dieu dans la nature. Nous voyons ensuite la colère de Dieu manifestée envers ceux qui retiennent la vérité captive. Et enfin, nous voyons un appel à la repentance à cause de la bonté de Dieu. Donc trois choses, nous voyons la clarté de la révélation de Dieu dans la nature, la colère de Dieu manifestée envers ceux qui retiennent la vérité captive, et troisièmement, un appel à la repentance à cause de la bonté de Dieu. Donc tout d'abord, la clarté de la révélation de Dieu. Nous lisons donc au verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient, comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Je crois que beaucoup d'entre nous pouvons rendre témoignage du fait que nous avons douté de l'existence de Dieu avant de devenir chrétien. Nous avons été soumis à l'école, à l'enseignement que le monde en fait est finalement là par hasard, que le monde est le résultat du Big Bang, que la vie est le résultat de l'évolution, que tout ça est venu par hasard. Et beaucoup d'hommes qui embrassent ces théories se disent athées. Pour eux, il n'y a pas de Dieu, ils en sont sûrs. D'autres qui aussi embrassent ces théories se disent agnostiques, c'est-à-dire qu'ils disent on ne peut pas savoir s'il y a un Dieu ou s'il n'y a pas de Dieu, on ne peut pas avoir de certitude. Et puis, d'autres encore ne se posent même pas la question parce que ces choses ne les intéressent pas et les dépassent, ils sont complètement indifférents. C'est sans doute d'ailleurs la majorité. Et ces trois positions, athéisme, agnosticisme et indifférence, représentent sans doute l'écrasante majorité des hommes dans notre pays et dans le monde entier d'ailleurs. Mais la parole nous dit ceci. La parole nous dit, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Ça devrait vous sauter aux yeux. Qui a fait tout ça? Vous savez que rien que de ce que vous possédez n'est venu par hasard. Votre maison a été fabriquée par des maçons, des charpentiers, des électriciens, des plombiers. La Bible que vous tenez dans vos mains a été imprimée par un imprimeur. Le pain que vous mangez tous les jours, il a été fait par le boulanger. Même une chose aussi simple qu'une baguette de pain ne peut pas venir par hasard. Et maintenant, regardez le mouvement parfaitement ordonné des planètes, le retour des saisons année après année depuis toujours, le mouvement des marées, la végétation luxuriante, les animaux magnifiques, la vie humaine, si complexe, tout ça serait venu par hasard alors que même votre baguette de pain a besoin d'un boulanger, sans parler de l'agriculteur qui a produit le blé, du camion qui a transporté le blé, de l'usine qui a fait la farine, du four qui a fait la pâte, etc., etc. Le grand scientifique anglais du XVIIIe siècle, Isaac Newton, qui a découvert la théorie de la gravité, un des hommes les plus intelligents de l'histoire, à l'évidence, a dit ceci. En l'absence de toute autre preuve, il suffit de mon pouce, pour me convaincre de l'existence de Dieu. Mais ce n'est pas seulement l'existence de Dieu que la nature démontre. Le texte nous dit que la nature montre aussi ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité. La puissance de Dieu nous est manifestée par l'étendue quasiment infinie de cet univers, les masses incalculables d'énergie et de matière qui sont contenues dans les galaxies. La complexité toujours plus grande que découvrent les scientifiques quand ils étudient la vie et la matière. Mais la Bible nous parle d'autres perfections de Dieu dont la création porte témoignage, notamment sa bonté, l'amour de Dieu et sa souveraineté. Nous pouvons regarder dans Actes 14. Et nous allons lire ce que Paul dit aux gens de la ville de Lystre, des gens auprès desquels il est venu d'évangéliser, qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et, voilà, et voici ce qu'il leur dit. Acte 14, verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Quoi qu'il nécessite de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien. Et regardons maintenant le psaume 104. Le psaume 104, c'est une ode magnifique à l'intervention permanente et bienveillante de Dieu dans la nature. Même sans l'intervention que nous ne voyons pas. Au psaume 104, et nous regardons le verset 10. Psaume 104, verset 10. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc on a ici effectivement cette intervention de Dieu dans les montagnes que nous ne voyons pas, où il va nourrir tous ses animaux. C'est lui qui fait pousser les plantes, c'est lui qui s'occupe de tout finalement. Et toutes ces choses sont pour notre bien. Je vais lire aussi l'extrait du psaume 19 qui nous dit que les cieux manifestent la gloire de Dieu et que le monde entier peut comprendre. Les cieux racontent, dit ce passage, au verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Tout le monde entend ces choses et peut voir ces choses en regardant la création. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a des doutes sur l'existence de Dieu, qu'il soit non chrétien ou un chrétien qui est assaillé par des doutes. Et la parole vous dit d'ouvrir vos yeux et de regarder autour de vous. Et vous y verrez partout les preuves de Dieu. Pas seulement un Dieu qui a créé la terre et puis qui ensuite est parti en nous laissant nous débrouiller tout seul avec nos problèmes. Non, un Dieu parfaitement bon qui envoie du ciel la pluie pour fertiliser la terre et abreuver les animaux, qui nourrit les animaux. Le mal dans le monde ne vient pas de Dieu. Le mal dans le monde vient du péché de l'homme. Mais Dieu, lui, démontre sa bonté chaque jour par ses provisions bienveillantes à notre égard. Maintenant, nous allons regarder la colère de Dieu manifestée envers ceux qui retiennent la vérité captive. Nous lisons verset 18, nous lisons que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, et plus loin nous lisons, ils sont inexcusables. Les hommes ont rejeté cette vérité sur la création. Et c'est assez extraordinaire, parce que cette vérité est éclatante, mais les hommes l'ont rejetée. Et même la parole dit non seulement qu'ils l'ont rejetée, mais qu'ils la retiennent injustement captive. En quelque sorte, ils l'étouffent. Ils ont pris la vérité et ils l'ont mise en prison. Et ça manifeste dans nos sociétés occidentales qui, bien qu'elle ait eu accès en abondance à la parole de Dieu, l'a rejetée. Mais c'est vrai aussi dans les régions du monde où l'évangile n'est pas parvenu, ou à peine parvenu. Et Paul écrit cette épître dans un monde qui était essentiellement païen. Peu de gens avaient entendu l'évangile. On pourrait croire que, du point de vue de Dieu, une personne qui n'a pas entendu l'évangile ne peut pas être tenue coupable, et qu'elle est innocente à cause de son ignorance. Mais ce n'est pas ce que dit le passage. Dieu dit que cette personne en savait assez par la révélation naturelle. Et Dieu dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Ils sont donc inexcusables. Inexcusables. C'est assez incroyable, mais même les personnes qui n'ont pas entendu parler de la Bible sont considérées par Dieu comme étant inexcusables parce qu'elles ont autour d'elles suffisamment d'éléments de révélation pour leur faire comprendre qu'il y a un Dieu et qu'il est bon. À ce stade, il convient de faire la différence entre la révélation dite naturelle et la révélation spéciale. La révélation spéciale, donc la révélation naturelle, c'est ce que nous venons de voir, c'est ce que nous montre la nature de Dieu. Et la révélation spéciale, elle nous est donnée par l'Écriture. Par exemple, la révélation sur un Dieu en trois personnes. La révélation sur le sacrifice expiatoire de Jésus. Sur le salut par la foi. Ce sont des choses qu'on ne peut pas découvrir en regardant la nature. Mais que le monde a été créé par un Dieu tout-puissant et bon, ça, nous pouvons le découvrir en regardant la nature. Et c'est pourquoi, lorsque les hommes se tiendront devant le trône du jugement, à la fin des temps, même s'ils proviennent d'une région ou d'une époque où la Bible n'est pas parvenue, ils ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Parce que le texte nous dit « puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne l'ont point rendu grâce, ils sont donc inexcusables ». Notre texte, alors on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que les hommes ont ainsi réagi? Comment se fait-il que les hommes ne voient pas toute cette révélation de Dieu? Et même nous pouvons nous poser la question pour nous-mêmes, car jusqu'à ce que nous venions chrétiens, c'était bien notre état d'esprit, n'est-ce pas? Et notre texte dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Plongé dans les ténèbres. Il y a un effet ici de la chute au jardin d'Éden. Éphésiens 4, 17 et 18 dit des hommes qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées et qu'ils ont l'intelligence obscurcie, qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et un autre passage en 2 Corinthiens 4, 4 nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, c'est-à-dire Satan. Satan a aveuglé l'intelligence des hommes. Une intelligence obscurcie, un endurcissement du cœur sont les résultats de la chute. Et c'est à cause de ça, au lieu de rendre un culte au vrai Dieu, ils se sont inventés des idoles grotesques, représentant des hommes ou des animaux, et ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Nous avons tous vu des statues des dieux égyptiens, et sans doute que Paul avait peut-être ces choses-là à l'esprit lorsqu'il a écrit ce texte, avec leur tête d'animaux sur des corps d'hommes. Il n'y a plus de culte comme ça aujourd'hui, en tout cas pas dans notre pays. Mais l'idolâtrie qui consiste à rendre un culte à la créature, à la chose créée, au lieu du créateur, est bien vivace. Il y a un homme de Dieu qui disait que le cœur de l'homme est une usine à fabriquer des idoles. Les exemples d'idolâtrie abondent autour de nous. Idolâtrie de l'argent qui est dénoncée par Paul dans Colossiens 3:5. Idolâtrie de la technologie. Particulièrement aujourd'hui, l'idolâtrie de la technologie, on a l'impression que la technologie va tout résoudre. L'idolâtrie de l'homme. L'homme et ses pouvoirs grandissants grâce à la science, grâce à la technologie, a pris la place de Dieu. L'homme est vraiment aujourd'hui l'objet de l'adoration. Et cette profonde incrédulité des hommes, malgré les preuves de la création, donc le fait qu'ils aient emprisonné la vérité de façon injuste, ils ont pour résultat la colère de Dieu. À cause de ça, Dieu exerce son jugement sur les hommes. Il va juger les hommes à la fin des temps, certes de façon spectaculaire et solennelle, lorsque nous serons tous devant lui, mais il les juge dès maintenant. Et regardez le texte. Regardez avec moi une expression qui revient trois fois dans les versets 24, 26 et 28. Je vous laisse regarder dans vos Bibles quelques instants et chercher une expression qui revient trois fois et qui décrit quelque chose que Dieu a fait. Dans les versets 24, verset 26 et verset 28. Dieu les a livrés. Nous trouvons donc effectivement trois fois cette expression qui est citée. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Et qui est précédée par « c'est pourquoi ». Donc à cause de cette incrédulité, du refus de voir Dieu dans la création, et même d'empêcher, sachant que cette vérité elle est là, mais de la tenir captive, de l'étouffer, à cause de ces choses-là, Dieu les a livrés. C'est extraordinaire de se rendre compte, je regardais un ensemble de vidéos sur YouTube faites par une organisation chrétienne sur la création, qui montre comment la création qui est décrite dans la Bible, telle qu'elle est décrite, se retrouve dans la nature, quand on regarde vraiment la nature. Mais c'est quelque chose qui est nié, absolument. Les personnes qui ont, les scientifiques qui embrassent cette croyance sont mis au banc de la société et au banc des scientifiques. Tout est fait pour nier les preuves évidentes de la création, qui sont partout en fait dans la nature, et du récit de la création tel qu'il est dans la parole de Dieu. Une création qui a été faite il y a quelques milliers d'années en 6 jours par le Seigneur. Et donc effectivement, à cause de tout ça, à cause de cette incrédulité, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Il les a livrés à l'impureté, il les a livrés à des passions infâmes, il les a livrés à leur sens réprouvé. Il faut bien comprendre que Dieu n'est jamais l'auteur du mal. C'est impossible. L'homme est l'auteur du mal, Satan est l'auteur du mal. Mais Dieu, lui, dans sa grâce, il n'est pas l'auteur du mal, au contraire, il restreint le péché. On appelle ça, les théologiens apparemment appellent ça la grâce restreignante. Je ne sais pas si c'est un très beau mot, mais en tout cas c'est français, la grâce qui restreint. Réfléchissez à ce que serait le monde si Dieu le livrait à lui-même. Comment serait le monde dans lequel nous vivons si Dieu le livrait à lui-même? Le monde serait une complète anarchie. Où serions-nous, nous chrétiens, si Dieu nous livrait à nous-mêmes? Combien de fois dans nos vies Dieu nous a préservés de faire le mal? Il l'a fait en utilisant notre conscience, notre éducation, le contrôle de nos parents, les lois de notre pays, la police, la loi de Dieu aussi entendue et l'Église, ou enseignée par nos parents. Il a aussi certainement agi sur nos circonstances, nous empêchant de nous trouver dans une telle situation de péché, par exemple. Mais il y a un moment où Dieu relâche son contrôle. La patience de Dieu devant le péché a des limites, et on en a la preuve dans ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Combien de fois l'ont-ils tenté? Ils l'ont tenté, jusqu'au jour où Dieu les a livrés. Par exemple, au serpent brûlant, ou à d'autres plaies. Ne croyons pas que la patience de Dieu est sans limite. Il a les limites qu'il a mises lui-même à cette patience. Et pareillement, quand l'incrédulité des hommes atteint son paroxysme, alors Dieu cesse d'exercer cette grâce restreignante. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les hommes être eux-mêmes. C'est terrible. On n'a surtout pas envie que Dieu nous laisse être nous-mêmes, c'est-à-dire notre chair. Il suffit de laisser les hommes être eux-mêmes. C'est comme une balle sur un plan incliné. Tant que vous la tenez, elle ne bouge pas. Mais si vous la lâchez, elle se met à rouler de plus en plus vite. Elle est livrée à elle-même. Dieu n'est pas l'auteur du péché, certainement pas. Même l'idée en serait horrible. Mais l'homme est l'auteur du péché, et malheur à lui si, à cause de son incrédulité, Dieu le livre à lui-même. Ici, dans ce passage, Paul cite 2 catégories de péchés auxquelles Dieu livre les hommes à cause de leur incrédulité. Tout d'abord, l'immoralité sexuelle dans les versets 24 à 26 et toutes sortes de méchanceté, de rébellion à partir du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre. Et en ce qui concerne donc l'immoralité sexuelle, Paul est plus spécifique car il parle précisément de l'homosexualité. Et nous trouvons ça au verset 27 lorsqu'il dit « Les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes. » C'est évidemment de plus en plus un sujet d'actualité, n'est-ce pas? Et ce texte de Paul serait qualifié par beaucoup aujourd'hui de discours de haine. Mais en fait, il n'en est rien. Ce que fait Paul dans ce passage, c'est qu'il caractérise clairement ce comportement comme un péché. Et il donne la vision que Dieu en a. C'est pas sa vision à lui, c'est la vision de Dieu. Il appelle ça des passions infâmes, des choses infâmes. Évidemment, c'est pas le point de vue du monde. Et au contraire, le monde aujourd'hui, de plus en plus, considère l'homosexualité comme une chose qui doit être célébrée, une chose dont on doit être fier. D'ailleurs, le mot anglais « gay pride » littéralement signifie « fierté d'être homosexuel ». Mais dans d'autres traductions, le mot « infâme » est rendu par le mot « honteux ». Donc ce que le monde voit comme un sujet de fierté, Dieu le voit comme un sujet de honte. Un péché grave, conséquence d'une incrédulité poussée à l'extrême. Alors comment devons-nous réagir par rapport à ça, nous les chrétiens ? Parce que nous serons de plus en plus pris à partie sur cette question-là. Il y a un grand joueur de rugby australien, international, qui s'appelle Israel Folau, qui a posté sur Twitter le passage de 1 Corinthiens 6 qui décrit un ensemble de péchés, dont l'homosexualité. Il a dit « Si vous pratiquez ces péchés, vous irez en enfer. » C'est un chrétien évangélique. C'est une star du rugby australien, le Zinedine Zidane du rugby en Australie. Il a été immédiatement viré de l'équipe nationale de rugby australien. Immédiatement, il a été, alors que c'est vraiment un des plus grands, ils l'ont tout de suite viré. Donc il est en procès avec eux. Donc effectivement, c'est une question qui est d'actualité et à laquelle nous serons appelés à répondre lorsqu'on nous en demandera la réponse. Comment donc réagir? Premièrement, quand la parole de Dieu est aussi claire sur un sujet, et ce passage est très clair, et quand le monde est entièrement opposé à la parole de Dieu sur ce sujet, et le monde est entièrement opposé à la parole de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons pratiquer ce que dit Actes 5, 29, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il n'y a pas à hésiter une seconde. Dieu dit que l'homosexualité est un péché grave, alors nous croyons Dieu et nous n'hésitons pas à penser et dire que c'est un péché grave. En fait, nous ne pouvons pas faire autrement, parce qu'il est notre maître, il est la source de toute vérité, et nous lui sommes soumis. Nous ne pouvons pas faire autre chose, nous ne pouvons pas exprimer d'autres opinions. Et deuxièmement, quelle doit être notre réaction par rapport aux personnes qui sont dans ce péché? Alors, je vous propose que vous regardiez Galates 6, verset 1. Ce qui est dit dans ce passage n'est pas seulement valable pour ce péché, il est valable pour tous les péchés. Et Galates 6, verset 1 dit ceci. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc notre réaction doit être marquée par l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas la complaisance. Et la douceur, ce n'est pas la faiblesse. L'amour, ce n'est pas fermer les yeux. L'amour, c'est dire la vérité. Si nous voyons quelqu'un qui marche au bord d'un précipice, nous crions pour l'empêcher de tomber. Et combien plus devons-nous mettre en garde quelqu'un qui marche sur le chemin qui mène à la destruction? Et quelqu'un qui est dans ses pratiques, il est vraiment, sans aucun doute, sur le chemin qui mène à la destruction. Et donc, il est important de l'alerter. Le péché tue. C'est pourquoi, quoi qu'il en coûte, nous ne devons pas hésiter à dire la vérité sur ce péché, en le désignant comme un péché. Nous devons dire la vérité, dire cette vérité au sein de l'Église, afin de mettre en garde le peuple de Dieu. Nous devons dire cette vérité au sein de nos familles, afin de mettre en garde nos enfants. Et nous devons dire cette vérité au dehors, si l'occasion nous en est donnée, envers les personnes qui pratiquent ce péché. Évidemment, en usant de tact, et avec un esprit profondément bienveillant, mais vrai, en appliquant ce verset de 1 Pierre 3,15, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Enfin, troisièmement, nous voyons dans ce passage un appel à la repentance à cause de la bonté de Dieu. Un appel à la repentance à cause de la bonté de Dieu. Quand nous voyons les péchés qui sont décrits par Paul dans ce passage. Merci frère. C'est beaucoup. Quand nous voyons les péchés qui sont décrits par Paul dans ce passage, ne sommes-nous pas révoltés par la dégradation de la société, révoltés par le mal et la nature aggravée de ces choses? Mais de là, il n'y a qu'un pas à nous comporter comme des pharisiens et à juger sans merci ceux qui commettent ces péchés. Il est frappant de voir qu'à peine Paul a terminé ce passage très, très virulent sur cette liste de péchés qui sont conséquences de l'incrédulité, à peine Paul a-t-il terminé qu'il s'empresse de mettre en garde ses lecteurs en leur disant « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Alors quelqu'un dira, mais moi je suis pas homosexuel. Peut-être. Mais regarde les autres péchés qui sont listés dans la fin du premier chapitre. À partir du verset 8 du chapitre 1. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. J'extrais de ce passage une liste de péchés, je pense que nous les avons tous, chacun d'entre nous ici, pratiqués. Méchanceté, cupidité, malice, envie, querelle, ruse, médisance, arrogance, rébellion envers les parents, manque de loyauté, manque de miséricorde. Qui dans cette salle peut dire qu'il n'a pas commis ses péchés? Qui même dans cette salle peut dire qu'il y a un seul de ses péchés qu'il n'ait jamais commis? Nous sommes coupables de tous ces péchés. Et donc le passage dit qu'à cause de cela, nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Nous nous tiendrons tous devant Dieu avec ses péchés. Avec tous ces péchés, et en plus avec notre implacable esprit de jugement des autres. Et nous pouvons être sûrs que nous aurons pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, c'est-à-dire l'enfer. Un seul de ces péchés est suffisant pour nous condamner à l'enfer. Et c'est pourquoi Paul, à la fin du passage donc, que nous avons lu, nous appelle à considérer les richesses de la bonté, de la patience et de la longanimité de Dieu, et reconnaître que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors regardons un peu cette bonté de Dieu. Nous avons déjà vu ce matin plusieurs aspects de la bonté de Dieu. Nous avons vu que cette bonté se manifeste dans la création et dans le fait que Dieu prend soin de toutes ses créatures pour les nourrir, pour leur donner à boire. Nous avons vu que dans le discours de Paul à Lystre, en fait, et dans le psaume 104, nous avons vu des choses, et puis en Matthieu chapitre 5 aussi, qu'on n'a pas cité, nous voyons que Dieu fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons et sur les méchants, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Malgré toutes nos rébellions, toutes nos transgressions, Dieu nous a nourris depuis notre enfance. Jusqu'à ce jour, il nous a vêtus, il nous a éclairés, réchauffés avec son soleil. Et nous avons vu que la bonté de Dieu se manifeste dans cette grâce restreignante. Et j'insiste là-dessus, combien de fois Dieu a-t-il été là pour nous empêcher de tomber dans des péchés aggravés, qui auraient pu mettre en danger notre réputation, notre travail, notre santé, notre vie même? Il a empêché même, sans que nous en rendions compte parfois. Si vous n'êtes pas meurtrier, si vous n'êtes pas adultère ou voleur ce matin, si la société dans laquelle vous vivez n'est pas livrée à l'anarchie, vous le devez à la grâce restreignante de Dieu. Car sans cette grâce, notre nature pécheresse, héritée de la chute, ce que Paul appelle notre chair, nous aurait sans aucun doute conduit au meurtre, à l'adultère, à la rébellion, ou peut-être aussi à l'homosexualité. Sans cette grâce, il n'y aurait pas des lois pour régir la société, il n'y aurait pas de police dans nos pays, il n'y aurait pas de gouvernement, aussi imparfait soit-il. Les incroyants disent souvent ceci, ils disent « quand je vois comment le mal dans le monde, je ne peux pas croire que Dieu existe ». Je pense que vous pouvez leur répondre que si Dieu n'existe pas, le monde serait mille fois pire. Si Dieu n'existait pas, le monde serait mille fois pire. J'entendais un message d'un pasteur qui s'émerveillait. Il disait, je m'émerveille quand je suis dans les embouteillages, quand il y a toutes ces voitures avec tous ces pêcheurs dans les voitures, qui sont tous super excités parce qu'ils sont bloqués, qu'il n'y ait pas d'émeute et de violence. Parce qu'en fait, Dieu, malgré ces milliers de pêcheurs dans leurs petites voitures, qui sont prêts à s'entretuer les uns les autres, et on sait ce que c'est qu'être en voiture, être énervé, pourtant, ça se passe bien. Parce que Dieu est là pour restreindre le péché. Méditez bien sur ces choses. Parce que c'est à Dieu que vous devez, que vous soyez chrétien ou non chrétien, c'est à Dieu que vous devez votre bien-être matériel, c'est à lui que vous devez tout le bien que vous avez fait. Paul parle ensuite de la longanimité de Dieu. Alors le mot longanimité, c'est un peu du vieux français, mais ça veut dire patience à supporter des souffrances qu'on aurait le pouvoir de réprimer. Il y a un autre passage de l'Exode 34, où l'Éternel se présente à Moïse comme lent à la colère et riche en bonté. La longanimité de Dieu se manifeste par le fait que bien que nous ayons commis tous ces péchés, et bien que Dieu en ait le pouvoir, il ne nous a pas détruits. Il est patient. Il aurait parfaitement pu le faire. Il l'a fait avec le peuple d'Israël, nous l'avons vu, en envoyant les serpents brûlants, en envoyant d'autres plaies. Mais avec nous pour l'instant, avec nous tous ici pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il y a un très beau passage que je propose de regarder dans Malachi, le prophète Malachi, dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachi. Malachi chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, Malachi 3:6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Combien de fois nous sommes-nous écartés des ordonnances du Seigneur ? Comme le peuple d'Israël dans le désert, et pourtant, il ne nous a pas consumés. Ce qu'il aurait parfaitement pu faire, mais il ne l'a pas fait. À cause de sa longanimité, de sa patience à supporter notre mauvais tempérament. Et maintenant, il y a une bonté par excellence, une grâce par excellence. Nous avons vu la bonté de Dieu dans la création, nous avons vu sa grâce restreignante qui sont au bénéfice de tous les hommes, les bons comme les méchants, nous avons vu sa longanimité. Mais une autre grâce qui s'exerce uniquement vers ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, c'est la grâce rédemptrice. La grâce rédemptrice, c'est la grâce qui rachète et qui sauve. La grâce qui rachète et qui sauve. Et la manifestation ultime de la bonté de Dieu, c'est que Dieu se fasse pauvre de riche qu'il était. Que Dieu prenne la nature humaine tout en gardant sa nature divine et qui s'humilie lui-même et qui se rende obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et qu'il porte nos péchés dans son corps, sur le bois, souffrant lui juste pour des injustes, afin de sauver son peuple de ses péchés. Et ce cantique, quand je faisais cette étude, j'ai pensé à ce cantique. Vit-on jamais un amour si grand, s'unir à une douleur plus extrême, et les pieds au front d'un mourant resplendir comme un diadème? Et dans la version originale de ce cantique en anglais, elle dit ceci: « Regardez de sa tête, de ses mains, de ses pieds, la douleur et l'amour coulent ensemble. Vit-on jamais un tel amour s'unir à une telle douleur et des épines composer une couronne si riche ?» Mesurons-nous combien Dieu a été patient et bon avec nous? Est-ce que vous mesurez combien Dieu était patient et bon avec vous? Alors qu'Adam et Ève ont péché, la main levée contre lui dans le jardin, au lieu de les détruire instantanément, il a tué des animaux. Et c'est le premier sacrifice qui a été fait. Il a tué des animaux pour les vêtir et revêtir de leur fourrure. Comme une mère nourrit ses enfants, il a vêtu, nourri, logé chacun d'entre nous depuis notre naissance. Est-ce que vous avez réalisé ça? Surtout si vous êtes complètement incroyant, est-ce que vous réalisez que tout ça ne vient pas par hasard? Il a fait même quand nous avons nié avec effronterie son existence. Maintes et maintes fois, il nous a préservés du péché et de ses conséquences. Mais surtout, il a poussé son amour jusqu'à se faire homme, jusqu'à prendre notre condition, en quelque sorte pour être encore plus proche de nous. Et ensuite, il a versé, en tant qu'homme, son sang sur la croix pour sauver son peuple de ses péchés. Et maintenant, il appelle chacun d'entre nous à la repentance. Il appelle chacun d'entre nous à la repentance. Et les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc sont les suivantes. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, chers amis, si vous ne l'avez jamais fait, il est temps que vous rentriez en vous-même, que vous considériez vos voies de péché à la lumière de la patience et de l'amour de Dieu. Il est temps que vous cessiez de retenir la vérité injustement captive. considérez cette bonté de Dieu. Considérez-le avec honnêteté, pas avec un esprit d'opposition, mais considérez-le avec honnêteté. Regardez les choses telles qu'elles sont. Regardez sa bonté. Et reconnaissez qu'elle vous pousse à la repentance. Et en particulier cette bonté, non seulement qui consiste à nourrir des rebelles, mais qui consiste à prendre leur nature pour être avec eux et mourir à leur place sur une croix. Soyez raisonnables et cessez votre rébellion. Méditez sur votre vie et méditez sur la bonté du Seigneur. Combien de fois aurait-il pu vous consumer? Mais il ne l'a pas fait. Reconnaissez, comme dit la parole, que le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Écoutez à nouveau ce que dit Malachie. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Et il rajoute, revenez à moi. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Écoutez comme le Seigneur est bon et patient. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est comme s'il disait, je ne vous ai pas détruit. J'aurais pu le faire. Vous auriez pu être malade, mourir dans un accident, ne jamais parler, entendre parler de moi, ne jamais être dans cette église. Mais vous êtes là ce matin, vous êtes vivant. Si vous êtes là, c'est parce que je l'ai voulu, parce que je suis le Dieu souverain. Je vous ai amené ici pour que vous entendiez mes paroles. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Et s'il dit ces choses-là, si vous revenez à lui, il reviendra à vous. C'est un Dieu de promesses qui tient ses promesses. C'est un Dieu qui ne ment pas. Alors s'il a mis dans votre cœur ce matin la pensée de revenir à lui, alors faites-le. Revenez à lui. Et il reviendra à vous. Il l'a promis. Il tient ses promesses. Lui, il les tient. Pourquoi ne les tiendrait-il pas? Il est le Dieu qui ne ment pas. Mais si vous rejetez à nouveau sa main tendue, et si vous endurcissez votre cœur, quelle sera votre fin? Quelle sera votre fin? Vous respirez l'air de Dieu, vous mangez son pain, vous vous réjouissez de son soleil, il vous donne la santé, un logement, du travail, et vous lui dites, tu n'existes pas. Prenez garde, car au jour du jugement, il vous dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ne méprisez pas les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, et reconnaissez que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce matin nous sommes rappelés à nouveau sa bonté envers nous, manifestée à la croix du calvaire, comme nous a demandé de le faire chaque fois que nous nous réunissons pour partager la table du Seigneur, comme nous l'avons fait ce matin. Nous avons toujours en nous ce reste de chair hérité de la chute et cette capacité à manquer de gratitude. Et puissions-nous par l'Esprit mettre à mort cette ingratitude et méditer sur toutes ces choses, toutes ces bontés qu'elle manifestait envers nous. On a participé à la table du Seigneur. Dans quelques instants, on va participer au repas fraternel. Donc on a la communion avec Dieu, la communion spirituelle avec le Seigneur à la croix, puis de l'autre côté, la communion fraternelle. Toutes ces choses sont bonnes, elles sont extrêmement bonnes. Et puisse tout cela nous rappeler comment le Seigneur est bon. Puissions-nous dans nos cœurs dire comme dit le cantique, comment te dire merci. Prions. Seigneur, ce matin, puisses-tu ouvrir les yeux de ceux, Seigneur, parmi nous qui retiennent encore injustement la vérité captive. Et puisses-tu, Seigneur, éclairer avec la lumière de l'Évangile et la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu éclairer ceux qui ont l'intelligence obscurcie. Puisses-tu enlever le voile des yeux de ceux dont les yeux ont été aveuglés par le Dieu de ce siècle. Seigneur, puisses-tu encore sauver. Seigneur, puisses-tu montrer combien tu es bon, combien tu es miséricordieux, combien tu es patient, combien ta main est tendue envers les pécheurs, afin qu'ils se repentent. Et Seigneur, pour nous qui sommes chrétiens, donne-nous, Seigneur, encore de faire grandir dans notre cœur la reconnaissance envers toi. Puisses-tu, Seigneur, déverser ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que nous soyons remplis de reconnaissance et de joie, que Seigneur, nous soyons reconnaissants à ton égard et que nous le manifestions par une vie transformée. Veuille, Seigneur, maintenant bénir cette assemblée, nous bénir dans le repas fraternel. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen.